commencer. Bonjour à tous. Même si on a encore des résistants qui ont refusé d'occuper les places ici à l'avant, hein. On peut toujours obéir, c'est vrai, on vous l'a montré la semaine dernière, donc il y en a qui appliquent, c'est très bien. Non, mais alors, aujourd'hui, on a vraiment une grande chance d'accueillir M. Laurent Ledoux. Alors, peut-être vous en avez déjà entendu parler sous différentes casquettes, parce que je pense qu'il a vraiment de multiples casquettes. Par le passé, il a travaillé chez BNP Paribas Fortis, où il a géré tout ce qui était public banking, tout ce qui concernait le non-marchand, où il a pu, même s'il n'était pas en effet le CSR manager dans cette entreprise, il a pu quand même mettre en place certains principes en lien avec le sujet qui nous occupe dans le cadre de ce cours, donc avec la responsabilité sociale de l'entreprise. Comme vous le savez, il est également intervenant, fondateur, et il participe activement à un programme qui s'appelle Philosophie et Management, qui s'adresse à des top leaders qui se posent des questions sur leur façon de gérer les affaires de manière très globale. Il vous en donnera sans doute, il vous donnera plus d'informations que moi sur le sujet. Il donne également des cours à des étudiants tels que vous, notamment à Liège. Et l'idée de la séance d'aujourd'hui, et c'est pourquoi on a prévu aussi une séance de 4 heures comme la semaine dernière, c'est d'avoir une discussion, un débat autour de 3 thèmes et en 3 temps. D'abord sur l'éthique, ensuite sur la responsabilité sociale de l'entreprise et enfin sur le leadership. Donc je pense que cette session va vraiment être l'occasion pour vous de lier ces 3 thèmes. Chose que moi je développe peu finalement dans le cours, cette notion de leadership. Ici on va voir comment on peut connecter cette notion de leadership aux notions d'éthique et de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors vous devriez normalement tous et toutes, je pense, et apparemment vous l'avez relativement bien fait, préparer donc l'intervention de ce jour sur base des petits cas et des questions qui vous étaient posées par M. Ledoux. Et donc nous avons reçu ces emails, donc mon assistant est M. Ledoux, et donc c'est sur cette base-là qu'on va discuter aujourd'hui avec cet intervenant. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et puis, enfin, pour le timing, vu qu'il y a 3 gros sujets, on propose sans doute de faire 2 pauses après chaque sujet. Donc, premier sujet, puis une pause. Deuxième sujet, une pause. Et troisième sujet. Je sais que certains d'entre vous dans la salle ont des contraintes horaires et doivent aller en cours à 16h15. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas au moment de la pause, on est au courant, vous venez, vous partez au moment qui vous convient dans ce cas-là. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Une dernière chose, je ne sais pas comment connecter.
Ah oui, je vais faire ça.
Bon, merci beaucoup à tous d'être là. Merci d'avoir répondu aux questions que je vous ai posées. En fait, on va vraiment structurer tout le cours autour de cela. Comme l'a dit Valérie, on va travailler en 3 temps. Tout d'abord, l'éthique des affaires. Qu'est-ce que c'est? Et on va le travailler au travers des cas auxquels vous avez répondu. Puis on va travailler le CSR. Vous l'avez déjà abordé, je pense, au travers des 2 premiers cours. On va peut-être on va approfondir certains points là-dessus. Et puis le leadership. Et vous verrez que je pense les 3 domaines sont intimement liés. Donc un des buts, c'est aussi de vous faire sentir en quoi le leadership est, selon moi, lié au CSR et à l'éthique des affaires et vice-versa.
Bon. Alors, problème technique, ça commence déjà. Hein.
C'est pas trop grave.
J'ai juste sorti de.
Oui, c'est pas grave.
C'est pas grave. De toute façon, je vais appeler pour changer.
C'est pas grave. Mais on va commencer tout de suite, en fait, par le premier cas. Le premier cas qui est celui de ce Pinto, hein, de ce responsable d'une société qui fabrique des autos et qui a un problème. Alors, quelqu'un pourrait-il justement nous rappeler quel est le problème auquel fait face ce dirigeant d'entreprise? Qui peut faire une brève synthèse de cela? Oui.
Bah, d'après mes souvenirs, donc, c'est un dirigeant un constructeur automobile.
Oui.
Et donc, il se retrouve avec une voiture finale qui est testée.
Oui.
Et on se rend compte qu'elle est moins sécurisée que la moyenne des voitures. Pourquoi? Parce que, en fait, au niveau du réservoir,
oui.
Il n'est pas très bien protégé. Et
oui.
Donc, s'il y a un impact avec une autre voiture, un accident, la voiture risque d'exploser.
Oui.
Alors, il fait une étude de faisabilité, donc protéger ce réservoir. Et il se rend compte que le surcoût pour protéger ce réservoir est inférieur au coût des tribunaux si jamais il est attaqué pour un mort.
Plutôt l'inverse. Hein, c'est plutôt l'inverse. C'est que le surcoût, en fait, le rappel des voitures est améliorer effectivement ou éliminer ce problème est supérieur au coût effectivement des suites en termes juridiques qu'il pourrait y avoir en cas d'accident. C'est ça le problème. Et effectivement, les voitures sont déjà sur le marché. Mais ils se rendent compte qu'il y a ce problème. Mais donc, en termes d'analyse coût-bénéfice, ce n'est pas une bonne idée de les rappeler. Hein, parce qu'ils estiment, en tout cas selon les études, que il n'y aura pas beaucoup d'accidents, il y en aura, mais peut-être pas. Et donc, finalement, voilà, s'il faut payer des dédommagements pour les blessés, voire les morts, ben, voilà, ça coûtera moins cher que si on doit rappeler toutes les voitures. La question qui vous est posée, qui vous a été posée, c'est que faites-vous ? Alors, j'ai reçu toute une série de réponses. Je voudrais qu'on voit un peu dans l'assistance quels sont les types de réponses que nous avons reçues. Voilà, qui veut non seulement donner sa position en tant que CEO de cette entreprise, mais aussi pourquoi il prend cette position, pourquoi il prend cette décision. Qui se lance? Qui est le premier CEO? Vas-y.
Je disais juste quel leadership.
C'est à toi que ça s'adresse.
Je dirais, si je veux satisfaire aux actionnaires, je prendrais l'optique qui minimise les coûts.
Oui, d'accord. C'est ce que tu ferais dans la réalité?
Je sais pas, il faudrait que je me projette dans l'idée de...
Projette-toi.
Je sais pas trop ce que ça raconte, donc c'est un peu dur, mais la réponse que j'avais mise, c'était plus une remise en question de... Si j'étais CEO, je me remettais en question dans le sens où, si je ne suis pas capable d'arriver à un certain stade d'exigence, je vais peut-être me poser des questions sur mes compétences. Alors, je dirais le bazar.
En quel sens tu dis que tu n'arrives pas à un certain stade d'exigence?
L'idée, c'était, je ne sais plus quel était le défaut, mais en fin de compte, peu importe.
Oui.
Et donc, c'est de se dire, si je dois gérer une entreprise qui doit essayer de produire un bien, la voiture, qui a un certain niveau d'exigence, et si je me rends compte qu'en réalité, je ne suis pas capable d'y arriver, peut-être que je me pose des questions, d'abord sur mes compétences pour gérer l'entreprise, avant même de poser la question de ce que je préfère me dire sacrifier les risques, enfin courir le risque de blesser ou de perte humaine ou le côté rentabilité.
Okay. Qui trouve qu'il répond à la question posée?
Attendez.
Qui trouve que monsieur ici présent répond à la question posée face à ce dilemme?
Alors, moi je trouve qu'il y a vraiment la question parce que c'est une question de gravité de la situation. Vu comment c'était posé dans le commentaire, on aurait pu croire que c'était un énorme défaut. C'est pas juste un défaut qui peut arriver sur une supply chain.
Attendez. J'essaye de comprendre ici. Vous êtes face à un dilemme qui est-ce qu'on rappelle les voitures ou est-ce qu'on les laisse sur le marché?
Ce que je voulais dire, c'est que on n'est enclavé que dans ces deux possibilités et aucune autre possibilité n'est envisageable. C'est pour répondre.
Toutes les possibilités sont envisageables. Mais la question métaphysique que tu te poses sur le fait de savoir si effectivement... tu te poserais des questions du niveau où tu es, si tu avais ce type de problème, etc. Est-ce que c'est vraiment pertinent à ce moment-là? Mais en quoi est-ce que ça t'aide à prendre la décision auquel tu es confronté?
Ah non, mais c'est dans l'idée que je peux me trouver plus capable, je ne sais pas dans quelle mesure, de me décharger de devoir prendre cette décision.
Ah donc tu te dis... La réponse, alors finalement, c'est de te dire, vu que je n'ai pas été capable de répondre à ce niveau d'exigence, en fait, je ne suis pas qualifié à répondre à ce dilemme, et donc je la laisse à quelqu'un d'autre. C'est ça que tu me dis?
Ce serait plutôt un autre moyen de dire que de ne pas courir la responsabilité.
Et pourquoi tu ne veux pas courir cette responsabilité? On va te laisser réfléchir, on va demander à quelqu'un d'autre entre-temps, mais on reviendra. Hein. On reviendra parce que je veux vraiment que tu réfléchisses à ce que tu dis et pourquoi tu le dis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Je veux être très clair là-dessus. Par contre, je voudrais vraiment vous engager à réfléchir à ce que vous feriez dans de telles situations et pourquoi. Quel est ton prénom ?
Rémi.
Rémi, ce que Rémi dit est, je pense, très intéressant, mais il faudra qu'on creuse ce qu'il y a derrière. On va le creuser ensemble. Donc, voilà, Rémi, réfléchis un peu, mais en attendant, il y a peut-être d'autres réponses que vous voudriez donner face à ce dilemme. Et à nouveau, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement ce que vous feriez, mais aussi le pourquoi. Comment vous le justifiez ? Oui. C'est comment ton prénom ?
Anthony.
Anthony.
Je pense que, à mon avis, dans ce genre de situation, ce serait peut-être intéressant de voir plutôt pour quelles raisons on ne retirerait pas les voitures. Dans le sens où, même d'un point de vue économique, on peut gagner en image de marque. Donc, même s'il y a le côté un peu, on va dire, objection de conscience de laisser des modèles dangereux pour les utilisateurs sur le marché. Mmh.
Ok, mais donc que fais-tu toi ?
Bah, je retire les voitures. Enfin,
tu ramènes les voitures.
C'est clairement, je les retire.
Ok, mais j'aime bien qu'on dise les choses clairement.
Bah voilà, je les retire.
Tu les retires. Alors, mais maintenant, justifie ta position. Pourquoi les retires-tu ? Est-ce que c'est une question d'image de marque, comme tu viens de le dire ?
C'est une question de gravité de la situation.
Ok. Qu'est-ce que tu appelles gravité de la situation ?
Il y a des vies humaines en jeu.
D'accord. Donc, c'est une position de principe que tu prends là. D'accord ? Ok. Donc le calcul économique.
Pour le premier cas, c'est
on est au premier cas maintenant. Donc ici, ce que nous dit Anthony, c'est que il prend sa décision sur une base de principe. Il veut respecter le principe qu'une vie humaine n'a pas de prix, en gros, dans le sens où l'analyse coût-bénéfice, même si elle entraînerait la décision finalement de les laisser sur le marché, Anthony dit. En gros, je m'embrosse, les vies humaines sont en jeu, donc je retire les voitures. D'accord, Anthony ? C'est ça que tu fais ?
Oui, a priori, là, je suis...
D'accord. Mais alors, tu as dit autre chose. Tu as parlé aussi de l'image de marque, c'est ça ? Donc, comment est-ce que ça intervient dans ton raisonnement ?
Il y a moyen, clairement, au niveau du coût, ce n'est pas rentable, on va dire, de ramener ces voitures, mais on peut quand même y regagner, du point de vue de la purement gestion, sur ce PDP.
Ok.
Ramener les voitures, ça veut dire qu'on a quand même une certaine qualité.
Ok, on va revenir là-dessus. Tu voulais réagir.
Bon, je ramènerai les voitures aussi, une question de principe. Du point de vue de l'image de marque, on y gagne d'un point de vue honnêteté, ok, mais d'un point de vue fiabilité. Les gens se disent, ok, ils doivent ramener des voitures, ça veut dire qu'ils ne sont pas compétents, ils mettent des voitures sur le marché, des fois qu'ils ne sont pas bonnes. Est-ce que ça arrivera dans le futur ? Du point de vue image de marque, pour moi, ils y perdent. Quoi.
Qui est d'accord ou en désaccord avec cette position ? Oui. Moi, peut-être dites-moi votre prénom, comme ça on voit un peu qui...
Moi c'est Pierre.
Et toi c'était ?
Moi c'est Jean-Sébastien.
Je suis d'accord avec lui, mais temps, je crois qu'il y aurait une plus grosse perte d'image de marque si on ne fait rien et que le scandale est découvert.
Éclate quand même.
Si on voit qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes parce qu'on n'a pas voulu, là l'image de marque, je crois qu'elle est foutue à vie.
Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. D'accord. Oui.
Je crois qu'en plus de ça, il faut se dire que...
Oui, François.
Il faut se dire que de toute façon, les deux solutions vont coûter cher. C'est plus la différence entre les deux qu'il faudrait connaître.
Ok, donc tu ramènes ça à un calcul, mais un peu plus sophistiqué. C'est ça que tu nous dis ?
C'est juste une différence, donc c'est pas si compliqué que ça.
Donc, tu es brillant, c'est vrai que pour toi ça doit être facile, mais pour des esprits plus simples comme le mien, ça devient quand même déjà un calcul assez complexe. Donc quels sont les calculs que tu mettrais en jeu alors ?
Si de toute façon on va devoir payer X pour devoir remplacer toutes les modifications sur les voitures, s'il y a un petit truc à ajouter en plus pour arriver à la somme des procès, enfin c'est l'inverse, justement. Des procès, bah, autant faire les procès, quoi.
Oui, mais enfin, qu'est-ce qui te fait alors pencher là-dessus ?
C'est que de toute façon, évidemment, on n'a pas de chiffre, mais si la différence est minime...
Et si elle est grande ?
Si elle est grande, ça, c'est une autre question.
Bah non, mais c'est la question que je te pose.
Non, ça, moi,
quel est ton prix, entre guillemets ?
Comment ?
Quel est ton prix ?
Le mien, c'est très cher. Mon avis, vous ne pouvez pas vous le faire.
Mais non, quel est, à partir de quel moment est-ce que tu te diras que la différence de prix est suffisamment grande que pour laisser les voitures sur le marché?
Non, enfin moi j'apporte ça comme un argument.
Non, mais je te demande toi.
Mais c'est pas le premier critère, le premier argument que j'utiliserais pour choisir.
Alors c'est lequel? C'est lequel?
Ce serait la sécurité.
Ok, donc tu pars du même principe qu'Anthony. Ouais. C'est ça? Et donc tu n'as pas de prix par rapport à cette sécurité, ou tu en as?
Par rapport à ce principe-là, non.
Non, d'accord. Une chose que je voudrais être clair, je vous demande pas d'imaginer ce que quelqu'un d'autre ferait. Je vous demande de penser à ce que vous feriez. C'est la grande différence. Hein? On n'est pas en train de jouer ici. On joue en quelque sorte, mais quand même, je voudrais que vous essayiez de vous imaginer que vous êtes dans cette situation. Et vous devez prendre une décision, ou que vous allez la déléguer à quelqu'un d'autre, que sais-je. Et ça, c'est important, parce que l'éthique, la responsabilité sociétale, c'est toujours quelque chose que l'on doit prendre ici et maintenant. Pas demain, pas hier, pas par quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui nous concerne, nous. Si on ne commence pas par là, on est foutu, à mon avis. J'ai eu la chance hier de participer à un séminaire avec quelqu'un qui est vraiment une spécialiste de ces questions-là, et qui nous a parlé du courage. Et elle disait une chose qui me paraît fondamentale. Le courage, c'est toujours ici et maintenant. Et donc, ça nous concerne. Courage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut déléguer à quelqu'un d'autre. C'est maintenant, ici. Donc, la question, elle est évidemment un peu factice, mais je vous demande de l'intégrer comme si vous étiez véritablement dans cette position-là. Oui.
Florence.
Oui, c'est un beau nom.
Moi, je vais droit dans mes bottes, que mes décisions soient en fonction de ma conscience, etc. Je pense que sur le terrain, quand on a derrière nous des objectifs, tout ce genre de choses, qu'on doit répondre à une demande, etc., nos principes, par moment, on peut les mettre de côté aussi. Et ça, on ne sait pas objectivement répondre à votre question maintenant, parce qu'on n'est pas dans cette situation, on ne fait que se projeter, mais finalement, notre réponse maintenant sera différente de l'année prochaine, peut-être, quand on sera en train de travailler.
Est-ce que ça nous dispense d'essayer d'y réfléchir maintenant?
Alors,
non, mais c'est très important ce que tu dis. Et en fait, c'était le premier slide que je voulais vous montrer, mais qui n'était pas apparu avant de commencer. Mais si tu me donnes l'occasion de l'évoquer, c'est celui-ci. George Steiner, c'est une personne intéressante. Moral imagination is the condition of free deeds. L'imagination morale est la condition d'actes libres. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Ça répond entre guillemets à ta question, dans le sens où c'est aussi en réfléchissant à ce que l'on ferait, en imaginant ce que l'on pourrait faire face à un dilemme éthique ou moral, que l'on apprend à être libre. Alors, c'est sûr que ce que vous allez dire aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que vous feriez demain dans cette situation-là. Ça, c'est certain. De la même façon que si nous réfléchissons aujourd'hui sur notre mort, qui est inéluctable pour chacun de nous, vous allez dire différentes choses qui ne seront pas, peut-être pas, ce que vous allez vivre au moment de votre mort. Mais le fait d'y penser chaque jour, à la mort, c'est une invitation que toutes les philosophies ont faite, peut nous aider, peut-être, à mieux mourir le jour où ça surviendra. Sachant qu'en plus, ça peut survenir à tout moment. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas inutile, même si tu as raison. Hein, si tu as raison sur le fond, qu'on ne sait pas comment on va véritablement réagir, ce n'est pas inutile de se poser régulièrement la question, de faire cet exercice, en fait, mental et presque physique, de se dire, face à des situations comme celle-là, comment je vais réagir. Parce que ça nous aide à nous connaître. On va revenir là-dessus. Mais merci pour ta question parce qu'elle est fondamentale. Oui.
Mais moi, pour répondre un petit peu à Laurent, je pense qu'il y a des cas où, avec l'expérience de vie, il y a des choix qu'on ne saurait jamais faire autrement. Par exemple, moi, ce cas-là m'a touché personnellement parce que, d'un, je rappellerai les voitures pour des raisons tout d'abord purement personnelles.
Oui.
Parce que, ayant eu une expérience de vie où on constate quatre personnes dans une voiture en feu, c'est quelque chose qui marque. Et je pourrais pas accepter de faire cette expérience-là, même si le coût était beaucoup plus important que le coût de procès. Enfin, pour d'autres cas, je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais, ouais. mais pour ce coup-là, en tout cas, je ne pourrais pas m'empêcher de revoir toujours cette image-là et de me dire que je pourrais l'éviter. Quoi. C'est quelque mm-hmm. chose que... Je veux dire, il y a moyen que nos valeurs changent et que nos décisions changent, mais je pense qu'il y a des éléments de l'expérience ou de, qui peuvent être d'autres qui font que jamais une décision autre... Enfin, moi, c'est mon
tout
cas
à fait.
Particulier. Je pense que jamais, pour quels que soient les coûts, je pourrais prendre une autre décision que celle-là.
Okay. Oui. D'autres réactions ? Est-ce qu'il y en a qui voudraient argumenter ? C'est tout à fait défendable. Le fait de laisser les voitures sur le marché.
Enfin, moi d'un côté, je les laisserai, et d'un autre côté, enfin, ça dépend de la situation. Si je me base en tant que directeur et je gère une entreprise, en fonction de sa situation, on va dire économique avec la crise, bon, si la société se porte bien et que oui, il y a des procès et que moralement, alors oui, je ramènerai les voitures par principe. Mais dans un autre côté, en sachant qu'il y a X personnes qui sont dans la société. Et que bon, s'il y a un problème et que la société est en crise, on sait qu'il y a X personnes qui vont se faire virer, enfin ça peut être des milliers, comparé où leur vie peut être détruite aussi, on va dire ça comme ça. Et en fonction donc, de les ramener ou ne pas les ramener, je regarde aussi quel est le type de voiture que j'ai produite. Si par exemple c'est une voiture de sport, dédiée aux jeunes, en sachant que les statistiques d'accidents sont plus grandes que celles des plus âgés,
oui.
ou si c'est une petite voiture. Je croiserai les doigts en laissant la voiture pour les vieux sur le marché. Et je ramènerai la voiture si c'est une voiture de sport ou si c'est une voiture de jeune. Quoi. Enfin, ça dépend vraiment de la situation de l'entreprise, de la voiture qu'on a sortie. Et même si on croise les doigts et on espère qu'il n'y aura pas d'accident, ça dépend dans lequel on est. Quoi. Mm-hmm.
Très bien. Oui, dites-moi votre prénom si ça ne vous dérange pas. Ça. Thierry.
Non, moi c'était par rapport à ce que vous dites, dans quel cas on laisserait la voiture sur le marché. Bah, ça me fait penser au cas d'un PDG, c'était Travel ou je ne sais pas quelle société, il y avait 2 milliards de bénéfices, ils ont quand même viré des gens, parce que c'est les actionnaires qui décident à l'heure actuelle, donc je pense que je ferais la même chose dans le cas où il faut laisser la voiture. C'est que je penserais plus à moi-même en disant voilà, si je ne le fais pas, je me fais sûrement virer aussi moi-même, vu que c'est les actionnaires qui dirigent quand même. Donc voilà, c'est peut-être. Contre ce que j'aurais fait en temps normal, mais voilà, parfois il n'y a pas le choix, on ne décide pas toujours, il y a des gens qui sont toujours au-dessus de nous, et soit, c'est un peu l'image de l'entreprise, soit on accepte ce que l'entreprise veut faire, soit on part. Mais tout le monde n'a pas d'accord de partir dans n'importe quelle condition, mais je pense qu'il faut accepter aussi la politique de l'entreprise. Si on travaille chez Total, il faut accepter qu'on tue des gens, quoi. Sans le vouloir, mais c'est vrai, il faut pas se leurrer. Les gens qui travaillent chez Total doivent accepter la philosophie et la façon de voir. C'est comme ça, on accepte d'être dans une société, d'être d'accord avec ce qu'ils font. Et si on n'est pas, bon, on part. Il faut être droit dans ses bottes aussi, dans chaque entreprise où on va. Donc voilà, ici, ben, on laisse les voitures sur le marché, ben voilà, on accepte. On est entre guillemets un peu responsable.
Un peu responsable.
Ben, on divise quand
même. On est un peu enceinte.
Voilà.
Donc,
quand il y a une femme enceinte, il y a un mec qui est responsable aussi, donc on est un peu responsable.
D'accord. Voilà. Oui, il y en a. Oui,
je voulais faire. Je vois pas en quoi est-ce que travailler chez Audi, c'est accepter de tuer des gens. Enfin,
dans le cas où il y a un défaut.
Dans le cas où. Ben oui.
Dans le cas où on sait qu'il y a un défaut.
Oui, on sait qu'il y a un défaut. D'accord, mais enfin, c'est quand même. Enfin, ce raisonnement-là me paraît quand même un peu. Pour Total, d'accord, mais enfin ici le cas c'est un constructeur automobile, je suis pas sûr, même si tu produis des voitures puissantes, c'est bon, d'accord, les gens font ce qu'ils veulent avec leur voiture, mais enfin à partir du moment où toi tu sais que ta voiture elle a un problème,
tu as raison, en même temps, si on creuse un peu la façon de voir que Thierry a exprimé, on pourrait dire, est-ce qu'il est normal qu'on accepte de produire des voitures qui ont une puissance d'aller jusqu'à 220 alors que la limite de vitesse sur l'autoroute est à peu près de 130 sur la plupart des autoroutes européennes, et qu'on sait qu'au-delà de cette vitesse, les risques de mort sont quand même très importants.
Oui, non, alors là-dessus, je rejoins totalement.
Dans ce sens, oui. Rejoins. Par contre, ce qu'on peut questionner, c'est la question de savoir jusqu'où accepte-t-on ce qui est dicté et surtout par qui ? Parce que là, on se met dans la position du CEO d'une entreprise. D'accord ? Alors, qui décide finalement ? Qui décide ? Je vous pose la question. Qui a le droit de décider alors finalement sur cette question ? Si ce n'est pas le CEO, qui le fait ? Oui, oui, vas-y Thierry.
Dans ce cas-ci, ce n'était pas explicité, mais... Dans le cas de l'exemple avec les 2 milliards de bénéfices, c'était plus le directeur, parce que le directeur, il a dû obéir aux actionnaires. Donc il faut voir aussi où on est, si je suis majoritairement...
Attends, quand tu dis il a dû obéir aux actionnaires, ça veut dire quoi ?
Il l'a fait.
Il l'a fait, donc il a choisi de le faire.
Il a choisi de le faire. Mais donc ici, dans le cas que vous m'avez expliqué, en disant voilà, on garde les voitures dessus, oui, je suis obligé de le faire, parce que je l'ai fait. Enfin, non, vous m'avez dit, pourquoi on le laisserait ? Mais parce que j'accepte de le faire sous la
donc pression. Donc j'accepte, je ne suis pas obligé.
Oui, mais enfin, je pars. J'ai pas le choix. Soit je le fais ou je me casse. La décision, si j'ai...
Mais c'est quand même une question importante que tu soulèves là. C'est la question de notre liberté. Et donc, de quoi sommes-nous libres ? Pourquoi sommes-nous libres ? Et en particulier, maintenant, on se met dans la position d'un CEO qui est quand même relativement élevé. Hein, c'est plus difficile, évidemment, de réfléchir en ces termes-là quand on est à différents niveaux de l'entreprise. Mais malgré tout, on peut se poser la question, de quoi sommes-nous libres ? Pourquoi ? À quoi sommes-nous obligés ? Et qui nous oblige ? Enfin, je la laisse un peu sur le côté maintenant, mais c'est quand même aussi une question importante. Rémi, entre-temps, tu as fait ta religion ?
Ma religion ?
Oui, voilà, ta religion, tu as pris ta position ?
Comme je pense que le lien que volonté que vous avez fait sur l'obligation... Ben voilà, dans ce cas-là, où je ne vois pas en quoi je serais obligé de faire le choix binaire.
Et quel est ton choix tertiaire, alors ?
Ben moi, ce serait le cas, à mon avis, si la responsabilité m'en venait de choisir l'un ou l'autre, ça ne pas accepter de continuer à travailler là. Quoi.
Donc tu te retires. D'accord. Oui.
Et une troisième solution, c'est simplement informer les gens que, vu que puisque effectivement on a un véhicule qui est peut-être très peu cher, on dit voilà, mais effectivement on a un risque, comme quand on achète une Smart, c'est pas très solide, et ben ici la voiture risque d'exploser.
Oui, parfait.
Comme ça on rejette un peu en fait la responsabilité sur
les citoyens, sur l'acheteur. D'accord. Oui, ton prénom,
si on est
ton prénom,
Pierre-Emmanuel. Si on est dans le cas et qu'on a que deux solutions et qu'il n'existe pas d'autres solutions, faut choisir entre les deux. Et ici, dans le cas, il parlait pas de je choisis, on ramène les voitures et on se virait. Non. Et si on choisit entre les deux cas, en conséquence de quoi ? Et je pense que si on choisit le cas où on ramène les voitures et qu'on se fait pas virer, tout le monde prendrait ce cas-là. Enfin, j'espère.
Oui, mais ça, tu sais pas à l'avance, ouais, si tu vas te faire virer ou pas.
Mais pour moi, j'ai pas envie d'avoir la responsabilité de la mort de quelqu'un si j'en suis conscient que ça existe.
Oui. Et donc, que fais-tu dans ce cas-là ?
Je ramène les voitures.
Tu ramènes les voitures. D'accord. Bon, on entend que, il y a quelques voix qui disent OK, on les laisse pour telle et telle raison, dans tel et tel cas. Très bien. D'autres qui disent position de principe, indépendamment du coût, on le fait. Alors, ça peut prendre des raisons diverses. Tu viens de le dire, je veux pas avoir ça sur la conscience. Ton prénom ?
Brieux,
c'était plus parce que tu as vécu quelque chose et tu dis, par respect pour ces personnes et pour toutes les autres, je ne le fais pas. Et alors, Anthony nous disait qu'il y avait ça et puis il y avait aussi l'image de marque, quelque part.
Non, je dirais plutôt, c'est un peu comme...
Ok, c'est comme ça. Mais tu as rajouté quand même l'image de marque.
Je suis à l'étape suivante, je réfléchis à des arguments supplémentaires.
D'accord. Je suis d'accord, ok. Donc, mais reprenons cela. La question de l'image de marque. Alors, on l'a évoqué, ça pourrait avoir des effets positifs, des effets négatifs. Question pour ceux, donc Anthony, Pierre-Emmanuel et Brieux, qui ont dit décision de principe. Quel que soit l'impact sur l'image de marque.
Quel que soit, pour ce cas-là, oui. Maintenant, moi, je pense que l'impact sur l'image de marque, je crois que c'est ce que Pierre avait dit. il me semble qu'il serait, même s'il est négatif parce qu'on ramène des voitures, bon, on a vu ce qu'il y avait avec Toyota, c'est ouais. clair que quand on doit rappeler des voitures, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour l'image de marque, mais je pense que ce serait beaucoup
pire
encore
ouais.
Si jamais on arrivait à prouver que c'était par notre négligence
que ça.
Je pense que là, ce serait vraiment quasiment fini, non seulement comme j'avais, pour le modèle de la voiture, mais pour l'ensemble des modèles. Je
ouais.
ne sais pas si moi, en tant que consommateur, j'accepterais d'acheter une voiture, qu'elle soit pas chère ou non, qui met ma vie en danger. Enfin,
tout à fait.
Dire, même si une Smart, on sait bien que si on se fait rentrer dedans par un camion, c'est un peu limite. Je veux dire...
tout à fait. Ok.
Là, c'est quand même un problème qui qui n'est pas par notre faute. Quoi, je veux dire.
D'accord. Bon, alors, je crois que. Oui, Pierre-Emmanuel.
Mais je pense que dans beaucoup de constructeurs, leur valeur, c'est sécurité et performance avant tout. Alors, si la sécurité est une de leurs valeurs, ils ont tout intérêt à le faire. Au moins pour être juste
oui,
dans leur
mais
vote
par contre,
de leur valeur.
Si on regarde justement ce qui s'est passé, et c'est un vrai cas, c'est la Ford Pinto. Dans les années 70, Lee Iacocca, qui était le patron à l'époque, a laissé les voitures sur le marché.
Mais c'est pas la même époque.
Comment
c'est...
Attends, on va y arriver, ça. T'es toujours un temps en avant, je sais. Moi, mais reste avec nous un moment. Donc, Lee Iacocca a décidé de les laisser sur le marché. Le problème, c'est qu'au 27e accident mortel, les coûts... les coûts juridiques ont tellement explosé et la pression alors médiatique etc a fait que finalement ils ont retiré les voitures du marché. Voilà. Et ta question c'est François c'était ouais mais c'est pas la bonne époque. À l'époque c'était tous des pourris. Aujourd'hui on est
non,
tous des gens
ça,
sympas.
Je pense que l'argument de la sécurité automobile est plus présent maintenant que
qui est d'accord avec ça ou qui voudrait ajouter ou commenter ouais, pas tous à la fois. Vas-y, toi.
Je voudrais dire, on a encore pas mal d'inquiétudes, mais dans d'autres domaines, comme par exemple, je ne vais pas ouvrir le débat, mais le GM, par exemple, on ne sait pas encore tout exactement quoi. Il y a peut-être encore des risques qui sont présents.
D'accord.
On essaie quand même de les commercialiser.
Ok, mais restons sur les voitures, parce que sinon.
Oui, mais je reprends juste un parallèle par rapport à ça aussi, dans lequel on investit.
Oui, donc on ne sait jamais, effectivement, mais. Bon, la question de la sécurité, elle existait quand même déjà à l'époque. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on ait changé, soi-disant ? Et qui prétend qu'on a changé ou que ce serait différent aujourd'hui ? Et pourquoi ? Alors, vas-y, et ton prénom ?
Juste au niveau des mentalités, moi je sais très bien que mes parents, c'est 34, ils mettaient jamais leur ceinture, etc.
Ouais.
Oui, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire quand même que les mentalités n'étaient pas autant fixées sur la sécurité.
D'accord.
Et donc, le risque pris de laisser les voitures sur le marché était moins grand puisque les gens allaient peut-être moins se retourner vers la société qu'aujourd'hui où on prend très directement le constructeur du droit.
Ah, mais tu as dit une chose importante, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on va plus se retourner contre la société, etc. Effectivement. Oui, d'autres arguments. Oui, Anthony.
Oui, je voudrais ajouter un truc. L'entreprise, c'est pas n'importe laquelle, c'est Ford aussi. Je te disais, sur
oui.
la prix de Toyota, je pense pas qu'on aurait eu ce genre de situation. Il y a la culture d'entreprise qui joue aussi les valeurs d'entreprise.
Alors,
c'est Ford, enfin je veux dire, c'est pas n'importe laquelle. Quoi. C'est Ford. Mais au niveau de leur façon de production, c'est, bah bon,